Merci Jean-Michel pour cet exposé très riche. Il y a plein de choses dans votre exposé et j'espère que les différents points vont être repris avec les questions qui vont venir. Alors vous aurez déjà été sensible, je crois, aux deux exemples de sortie que nous avons entendus, puisque aussi bien Elisabeth et que Jean-Michel, vous avez été plus brièvement, Jean-Michel, avec plus de détails, nous ont parlé de leur mode de sortie. Le mode de sortie, c'est l'expression que vous avez employée. Elisabeth parlait plutôt de sa conclusion. Vous avez évoqué une bévue.
Oui, mais je ne dis pas que c'est la mienne.
Ah, c'est moi qui ai entendu, alors. Je le garde pour moi, alors. Autant pour moi. Alors, Elisabeth, je vais, comme on fait d'habitude, essayer de dire quelques mots sur chacun des exposés et puis poser une petite question ou deux et avant de vous passer la parole et ainsi je vous laisse le temps de réfléchir. Alors, j'ai retenu cette question que vous posez au début. Qu'est-ce qui empêche un sujet de conclure ? Alors, poser cette question, qu'est-ce qui empêche le sujet de conclure, implique une thèse. Il y a une thèse contenue là. Ça vous est dit, par rapport à la question dont on a mis, sur la durée des analyses, se demander qu'est-ce qui empêche un sujet de conclure, suppose que l'on pense que la durée de l'analyse n'a pas de raison d'être intrinsèque. Il n'y a pas de raison intrinsèque à l'analyse elle-même pour que ça dure. Si on se demande qu'est-ce qui empêche un sujet de conclure, ça suppose qu'il y a obstacle à la conclusion. Pourtant, il me semble que, c'est une question que vous posez au début, il me semble que dans ce que vous développez, c'est plutôt les conditions qui permettent, d'ailleurs c'est un verbe que vous employez à plusieurs reprises, vous développez plutôt, me semble-t-il, les conditions qui permettent une conclusion. Une conclusion, disons, définitive. Vous dites conclusion finale, je crois, à un moment donné. Comme s'il y avait plusieurs moments de conclusion. D'ailleurs, vous le suggérez dans ce que vous développez. Alors, votre point de départ, en quelque sorte, c'est qu'il faut, je vous cite pour conclure, ce que vous appelez un changement radical du sujet à l'encontre du savoir. Ça, vous le posez au départ, vous le reprenez après clairement. Donc, d'une certaine manière, vous mettez au centre de l'affaire le rapport au savoir, et là, vous joignez aussi ce que Jean-Michel a développé d'une autre façon. Donc, sur ce point, vous êtes d'accord. Alors, vous distinguez, en tout cas, je vais distinguer dans ce que vous présentez, trois moments. Vous dites bien que ce ne sont pas nécessairement des moments chronologique, ça peut se poser, c'est trois moments ou trois niveaux, il faut voir. D'abord, cette attente, là, un terme que Jean-Michel a employé aussi, une attente du savoir, attente d'une révélation du savoir qui aurait une valeur curative. Attente, dont vous dites tout de suite, elle est déçue. Et là-dessus, vous rejoignez aussi un point de vue de Jean-Michel. Vous parlez aussi de la déception de cette attente. Peut-être que ça, pas avec le mot déception. Pas avec le mot déception, mais je retrouverai après comment vous le dites. Vous parlez bien d'attente. Donc vous ne mettez pas l'accent sur la déception. Il y a des différences, je vous l'ai dit au départ. L'accent sur la déception, c'est Elisabeth qui la met. Donc, nécessairement déçu, vous expliquez pourquoi, à cause de la fuite du sens. Et de l'impossible, d'une vérité toute. Bon, alors, là vous indiquez un moment de conclusion possible, mais qui ne vient pas, puisque vous indiquez que au lieu d'en déduire ce qu'il pourrait, d'une déception de cette attente, l'impossible à savoir, et le sujet s'en attribue la faute à lui-même, ou à l'analyste. Voilà, c'est une possibilité, ce qui indique, c'est s'entendre que c'est là un moment de possible conclusion. Ce serait, ça pourrait être.
Pardon, possible.
Oui. Mais pourtant, ça ne l'est pas. Le sujet, donc, fait appel à la faute, si l'on peut dire. La sienne ou celle de l'analyse, ce qui peut motiver ou dire bien un arrêt ou une interruption, qui le laisse donc en deçà de cette conclusion par l'impossible. Donc, vous passez ensuite à l'aperçu du fantasme, que vous situez en quelque sorte, encore une fois, comme deuxième membre, tout en indiquant que ça peut ne pas être chronologique. Aperçu du fantasme, donc vous dites qu'il assèche, j'ai retenu cette expression, qu'il assèche l'attente du sujet quant au savoir et à la vérité. Le fantasme assèche l'attente du sujet quant au savoir et à la vérité. Le verbe assécher, là, m'a retenu. Donc, voilà. Pourquoi, je me suis demandé pourquoi assécher, donc je vous le demande, c'est une petite question comme ça, latérale. En tout cas, il y a là un gain de savoir, vous êtes très affirmatif là-dessus, on est d'accord avec vous, en tout cas je le suis, un gain de savoir dans cet aperçu du fantasme. Pourquoi? Parce que ça allège, dites-vous, le sujet, ça allège la vie du sujet en faisant déconsister l'autre. Bon, alors, vous jugez, c'est pas mal. Pas mal du tout, mais tout de suite après, vous dites quand même que c'est insuffisant pour conclure, à votre avis. Bon, vous vous avancez, hein, vous vous prononcez, donc voilà. Enfin, viendrait la possibilité de quelque chose de plus qu'un gain de savoir, hein. En tout cas, quelque chose qui n'est pas un gain de savoir, mais qui est donc un aperçu sur, là on revient au point que vous avez avancé, hein, un aperçu de la part du sujet de ce que vous appelez ce changement de statut du savoir. Donc, vous indiquez que le savoir cesse d'être référé simplement au sens et à la vérité, qu'il y a ce que Lacan a pu appeler dans Encore un savoir jouni, hein, que vous faites équivaloir, si j'ai bien suivi, mais ce n'est peut-être pas le cas, au savoir sans sujet.
Oui, en tout cas, c'est solidaire, me semble.
Oui. Bon, là, peut-être point d'interrogation, parce que ça ne va pas de soi, en tout cas pour moi. Hein, l'équivalence entre le savoir joui et le savoir sans sujet, peut-être que si. Maintenant que je vous le demande. Bon, en tout cas, rencontre à ce moment-là, rencontre ou découverte par le sujet de ce savoir joui, sous le mode, c'est là que je vais donner l'exemple que je vous ai attribué. Cette rencontre ou cette découverte se fait sous le mode donc de cette bévue, hein, de ce lapsus ou autre bévue qui surprend le sujet, mais qui là se surprend autrement que d'autres bévues, puisque ça ne fait pas appel au sens. Hein. Et donc vous faites de cet événement, hein, la condition pour ce que vous appelez une liquidation liquidation de tout sujet supposé au savoir inconscient. Enfin, c'est liquidé. Alors, pourquoi vous expliquez pourquoi, hein, car cela affecte d'une autre façon, cela affecte d'une autre façon. Le sujet réalise l'inconscient, il le réalise, j'ajouterai comme autre, c'est-à-dire que l'inconscient reste autre, c'est-à-dire qu'il ne se l'approprie plus. Alors là, il y a quelque chose que je trouvais très joli dans votre texte, parce que dès que vous rédigez votre phrase, vous dites réaliser, vous employez l'imparfait. Réaliser, vous l'avez écrit avec deux accents, réaliser. Et donc, il y a une équivoque là. Je ne sais pas si vous l'avez saisi, mais je l'ai trouvé très belle. Il y a un sujet réalisé, ça veut dire que vous faites un verbe néologisme, dites-vous, avec réel, un verbe de ré. Mais c'est aussi réélire. Et effectivement, non, c'est généalogisme. Réélire, réaliser. Donc, on peut entendre réaliser au sens de réalise l'inconscient, puisque ça vient de réel, ou au sens de réélit l'inconscient. Pas du tout.
Pas du
mais
tout.
Justement, c'est
bien, merci de me le dire.
Mais c'est bien le choix, vous indiquez là. Implicitement, dans l'équivoque, vous indiquez le choix qui se présente au sujet, hein, de continuer, de réélire, de refaire le choix de l'inconscient, hein, plutôt que donc de ne pas renoncer à se l'approprier, de continuer dans la quête, plutôt que de reconnaître enfin, de réaliser l'inconscient comme autre. Hein. Voilà. Alors, à propos de votre question. Hein, à propos de votre question, celle que vous dites, je vais quand même poser une question qui n'a peut-être pas de réponse. Je vous en patientez, Colette, je parle trop. Je termine. Non, mais je vous vois. Donc, je termine ce que je voulais te dire pendant que vous préparez. Je ne vous vois pas du tout. Et je fais attention à vous plutôt. Alors, à propos de votre question, Elisabeth, je vous interroge à mon tour. Vous dites, je vous cite la question que vous posez, telle que vous-même vous la formulez, c'est. C'est important. À la fin, c'est en une parenthèse. J'ai une question probablement sans réponse que je vous soumets. Je me demande si cet événement ou l'inconscient se manifeste comme réel. Non, c'est pas du tout ça la question.
Oui, je modifie un peu.
Ah, parce que vous l'avez modifié. Ah, attendez, je vous reprends la formulation que j'ai, c'est peut-être la même. Je me retrouve dans le papier parce que j'ai souligné. Je me demande si cet événement ou l'inconscient réel se manifeste, hein, ne se. Je me demande si cet événement où l'inconscient réel se manifeste, s'il ne se manifeste pas.
C'est pour ça que j'ai corrigé la.
Justement, parce que quelque chose avait déjà été touché auparavant du côté du sujet contre savoir. Donc, je vous disais, je vous demande à mon tour pourquoi supposer que c'est l'inconscient réel qui se manifeste. J'explique ma question. Est-ce que ce ne serait pas plutôt ce que vous avez laissé entendre avant de poser cette question? Est-ce que ce n'est pas plutôt la position du sujet à l'égard de cette manifestation, d'une manifestation de l'inconscient qui a changé? Les manifestations de l'inconscient, il y en a. Hein, bon. Est-ce que il s'agit là d'une manifestation de l'inconscient réel qui fait que ça change, ou plutôt, vous voyez que ça change quand même tout, la position du sujet à l'égard d'une manifestation de l'inconscient, hein, qui change. Bon, alors, vous avez eu largement le temps de trouver vos questions. Je vais quand même prendre. Pardon ? Zut, vous n'étiez pas censé. Jean-Michel, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Alors, en fait, l'éternité ne commence à devenir longue, c'est ce que vous nous avez expliqué, que quand sa fin commence. Pendant tout un temps, l'éternité n'est pas longue du tout, elle est éternelle. On n'a pas du tout le sentiment d'éternité, vous l'avez dit, donc vous disiez, l'éternité ne commence à devenir longue que quand sa fin commence. Bon, à vous suivre, ce n'est pas la durée des analyses, ce n'est pas leur éternisation qui pose question, mais la possibilité même d'une fin. Vous interrogez plus la fin que la durée. Hein? Donc il y a une sorte d'inversion de la question. Alors, je trouve que c'est justifié, cette inversion de la question dans ce que vous nous dites est justifié par la perspective que vous adoptez, qui est la perspective de ce que vous appelez le manque à savoir. Et même, je dirais, le manque à savoir qui pousse. On pourrait presque en faire un seul mot avec des tirets. Hein? Donc, dans la perspective du manque à savoir qui pousse, ce manque de savoir qui est là du début jusqu'à la fin, dans cette perspective, effectivement, la question n'est pas celle de l'éternisation, mais celle de qu'est-ce qui peut mettre fin à ça. Hein? Alors, On serait tenté de voir non seulement qu'à savoir qui pousse, en tout cas j'ai été tenté de le penser à l'expression d'un désir analysant, on pourrait dire, avec tous les guillemets nécessaires, ce qui laisse apparaître, je dirais, la question de la cause. La cause d'un tel désir, quelle est la cause de ce désir analysant, entre guillemets, et du même coup, ça montre bien quelle est la place du désir de l'analyste. Il ne plaît pas, l'expression qui ne plaît pas à Elisabeth, mais... Bon, ça dépend de cet usage, vous l'avez bien dit. Bon. Et puis, ça laisse apparaître par la même occasion que si la durée des analyses paraît longue, je dirais, c'est faute d'avoir pris en compte ce facteur épistémique que vous suivez tout au long de votre exposé. C'est-à-dire, bon, dans certains points de vue, on pourrait presque dire que l'analyse me paraît longue, la durée de l'analyse me paraît longue, que dans une perspective qui est purement thérapeutique. Alors, vous nous donnez la réponse de Lacan, ou une réponse de Lacan, dans une belle phrase difficile de radiophonie que vous citez, mais qui a résonné pour moi dans tel que vous l'avez présenté. Hein, il s'agit de faire trace de ce qui a défailli à s'avérer d'abord. Bon, ça c'est une parenthèse. Vous dites avoir été saisi d'un sentiment de hâte qui vous a permis de quitter l'analyse. Là aussi, c'est permis. Donc, un sentiment de hâte vous a permis de quitter l'analyse. Ça laisserait entendre, encore une fois, qu'une fois commencé, il n'y a pas de raison pour que ça se termine. Et deuxièmement, ça laisserait entendre que la possibilité de cette fin ne serait que contingente. Vous l'avez même dit en passant, je crois, à un moment donné, et Elisabeth allait un petit peu dans ce sens aussi à un moment. Alors, je vous demande, est-ce le cas? Par moments, il me semble que ce n'est pas ce que vous voulez dire. Vous avez bien d'ailleurs montré, le surgissement du sentiment d'urgence, de sortie qu'il y a eu pour vous. Hein? Vous l'avez motivé. Mais je vous pose la question, disons, pour ouvrir la discussion. Hein? N'y a-t-il donc aucune nécessité de mettre fin à cette durée? Est-ce que c'est simplement, même si ce n'est pas simple, est-ce une affaire de choix? Est-ce une affaire d'éthique du sujet? Vous le laissez entendre un peu avec le mot décision tel que vous l'utilisez à la fin. Et il me semble qu'Elisabeth, d'une certaine manière, allait dans ce sens aussi, avec des remarques un peu différentes. Voilà, donc la parole est à vous, à la salle. Soit vous voulez l'un ou l'autre répondre tout de suite à quelques points, soit il y a déjà des mains qui se lèvent. On va préparer. Nadine.
Moi, je pensais à.
Je vais vous passer le... On va vous passer un micro.
Je vais revenir sur la question de l'attente qui est associée à la déception. Il me semble qu'il y a peut-être. L'attente, c'est aussi autre chose. Parce que je me souviens d'un texte de Freud dans lequel il disait. À propos aussi de l'angoisse, que l'attente était aussi, pour essayer de situer cette attente, était aussi, ce qui préparait, au contraire, c'était plutôt quelque chose qui ouvrait, non pas sur la déception, mais au contraire sur, quelque chose qui, qui à l'horizon un peu.
Jusqu'à un certain point, certainement.
Voilà.
Oui, c'est important.
Je n'ai pas l'attiré du côté de la déception, mais plutôt du côté de quelque chose de nécessaire.
Ouais.
De nécessaire. Et que. Et on prend.
C'est vrai. C'est vrai que Freud parle d'une attente confiante à un moment donné. Mais.
Heureusement que ça démarre.
Confiante ou pas. Voilà, confiante ou pas, elle est déçue.
Oui, peut-être les mots déçus. Alors, Sol, merci pour cette lecture très attentive. Je vais choisir quelques... peut-être les mots empêchés n'est pas le meilleur, en effet, parce que ça donne cette impression que c'est quelque chose d'extérieur, comme s'il y avait un empêchement.
Un obstacle.
Et c'est vraiment quelque chose que je pense qui vient du côté du sujet. Hein? Il y a des raisons intrinsèques qui empêchent la conclusion. La parole ne permet pas d'être conclusive, hein? C'est un chef. Mais je pense qu'il y a du côté du sujet quelque chose qui rend difficile de conclure. Ça, c'est une chose, peut-être qu'on peut penser les mots empêchés. Quand j'ai dit que l'aperçu du fantasme assèche, c'est dans le sens de réduire, hein, de réduire, il réduit, pourquoi il réduit cette attente de sens et de vérité, parce qu'il condense tellement tout ce qu'on a pu aboutir, des bouts qu'on a pu attraper, qui forcément... disons, on n'a pas beaucoup de choses à chercher après. Alors, la question...
Est-ce que vous ne considérez pas que c'est satisfait, cette attente? Vous dites qu'elle la sèche. Vous ne dites pas non plus que ça l'épuise.
Voilà, c'est une question.
Voilà
ça, c'est la question qu'on peut discuter. Voilà, d'une conclusion qui s'arrête là, qui est faite à ces moments-là, et éventuellement d'une autre...
Ça peut satisfaire.
Satisfaisant d'ailleurs, c'est soulageant.
D'accord.
Hein? Oui. Et en revanche, là c'est une question vraiment ouverte, parce que j'ai l'impression, et je vous livre comme je peux le saisir jusqu'à présent, cette histoire d'un conscient réel, c'est pas quelque chose, je n'ai pas l'impression que ça soit quelque chose qui surgit comme ça, c'est-à-dire ça a toujours été là au long de l'analyse. Ça a toujours été là, c'est-à-dire toutes les formations de l'inconscient, est réel. Donc les montres, sauf que dans les mouvements analytiques, dès qu'une bévue apparaît, on lance la machine pour essayer de rendre sens. Les symboliques essayent de prendre le dessus. Il est fait jusqu'à un certain point. Donc il est toujours là, il a toujours été. Donc je pense que votre lecture est la bonne, c'est-à-dire, et c'est l'hypothèse que j'ai, c'est que pour qu'un moment, une bévue quelconque puisse avoir une autre portée, parce qu'elle va affecter différemment le sujet, c'est que du côté sujet, il y a un changement qui permet que cette fois-ci, une bévue quelconque soit... Voilà. Prise au, et là, je pense que la quête du sens s'arrête.
Jean-Michel?
Oui. Alors, par rapport à aucune nécessité de mettre fin à l'analyse, moi j'ai l'impression que tant qu'on est dans cette attente-là, je crois que mon sentiment, il n'y a aucune fin. Enfin, vraiment possible. Enfin, cette nécessité finalement d'associer cette parole qui est toujours là dans l'analyse, elle contribue à cette éternisation. Alors, moi, quand j'ai employé le mot éternisation, c'était quand même c'était après l'attente. Et après, après cette attente, voilà, c'est ce que j'ai dit au début, ça rythme l'analyse. Là, il n'y a pas vraiment de cette impression du temps, il y a quelque chose qui est... Voilà, comme je l'ai dit, la vie du sujet est dans l'analyse, donc il n'y a pas ce décalage et cette possibilité finalement d'en pâtir un petit peu de ce sans-fin-là. Donc moi, c'est quand même ça que j'ai voulu mettre un petit peu en évidence, c'est que la nécessité, elle continue, elle est presque toute seule. Presque toute seule. J'avais cette idée-là quand même qu'il y a quelque chose, c'est pas automatique, mais voilà, cette éternisation, j'aurais peut-être pu le prendre d'un autre côté, du côté du deuil par exemple, mais je savais pas trop comment on n'en parle plus tellement non plus. J'aurais peut-être pris de ce côté-là. Moi, je rejoins autrement ce qui vient d'être dit par rapport effectivement au fait qu'à un moment, il y a une chute de l'interprétation, en tout cas du côté de l'analysant. Et il me semble en tout cas que dans cette... la question c'est pourquoi à ce moment-là? Pourquoi à ce moment-là? Je n'ai pas de réponse. Il y a quelque chose finalement qui cesse d'être relié finalement à l'autre, à la parole, et quelque chose qui se... Oui, je pense qu'il se réduit assez directement. Voilà. Mais du D'accord, coup, c'est ça qui permet finalement une sortie aussi de cette éternisation. C'est parce que là, il y a cette sortie possible comme ça.
Oui, je pense que quand je parle d'empêchement, là, qu'est-ce qu'empêche de conclure, et Jean-Michel, quand tu parles d'éternisation, c'est-à-dire on a en tête cette phase plutôt finale de l'analyse. C'est ça, c'est pas, je pense, le début ou l'attente ou le travail. Je
ne trouve pas la sortie. Non. Quelque chose comme ça.
Nadine, vous pouvez repasser le micro. Il y a une question ici. Vous passez par là de Marc Strauss. Et après, le micro ira de l'autre côté.
Oui, merci aux deux intervenants. C'est une question qui est inspirée par l'actualité et par vos exposés. C'est une question qui m'est inspirée.
C'est trop près du...
Comme ça.
Éloigne un c'est peu,
bien,
voilà.
C'est bien.
C'est donc une question qui m'est inspirée et par l'actualité et par vos exposés. Et en premier lieu, je pensais, en vous entendant tous les deux, à cette apostrophe de Lacan à son séminaire des dernières années, qui disait donc à son auditoire, l'analyse, c'est qu'on a trouvé lieu pour vous faire attendre. Je laisse supposer que, effectivement, les sujets aiment attendre. Ils aiment attendre, plutôt à vous entendre, et prendre acte du fait qu'il y a un savoir sans sujet. Alors, ma question ne porte pas tellement sur, non, pas du tout, mais sur la façon dont le sujet d'accès prend acte de ce savoir sans sujet, mais sur l'expression elle-même, savoir sans sujet. Est-ce que cette expression suppose l'athéisme ou non? Est-ce que c'est une expression athée? Est-ce que vous avez là-dessus une opinion?
Non.
Ils n'ont pas d'opinion.
Non, j'ai pas d'opinion.
Moi, j'avais l'idée quand même qu'il y a quelque chose d'une incroyance quand même. Oui, qui se produit quand même. Enfin, je ne sais pas si se produire, c'est un... Moi, j'ai cette idée-là quand même, qu'il y a quelque chose d'une incroyance. Alors, un coup, exactement. Puisque là, un inconscient, finalement, c'est jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout on part, jusqu'au bout on rêve, on fait des lapsus, on les interprète, mais je crois qu'il y a, je n'ai pas pu appeler autrement qu'un moment de coupure, maintenant il me semble que c'est coupure aussi avec cette croyance à la parole, à la chaîne signifiante, à l'inconscient, d'une certaine manière je crois qu'il y a quelque chose, c'est cette rôle-là.
Si c'est ça la théorie.
Pardon ?
Si c'est ça, l'athéisme, donc, si on peut rapprocher de ça.
Il me semble quand même que, il me semble me souvenir, hein, je cite de mémoire. Ah pardon. Oui, la question de Marc Strauss me fait penser que une des fois où Lacan introduit, peut-être les premières fois où Lacan introduit cette expression de savoir son sujet, c'est si mon souvenir est bon, dans d'un autre à l'autre. Et il y a un passage où, encore une fois, je cite de mémoire à vérifier, il dit il y a du savoir dans l'autre, mais l'autre n'est pas un sujet. Et c'est à la suite de ça qu'il évoque l'inconscient comme un savoir sans sujet. C'est ce qui m'avait donné l'idée comme. Jean-Michel vient de le dire, qu'effectivement, le savoir son sujet implique une incroyance, une tombée de la croyance dans l'autre. Et en ce sens, j'avais l'idée, en effet, que c'est du côté de l'athéisme, ça. Mais si tu poses la question, c'est que tu as ta propre idée, non?
Si je pose la question, c'est qu'effectivement, j'ai l'idée que oui. Et du coup, ça donne évidemment à cette position analytique, à savoir son sujet, position éthique et politique actuellement extrêmement délicate dans le monde d'aujourd'hui. Je ne parle pas de la laïcité. La laïcité dont on nous rebat les oreilles, qui est de renvoyer effectivement à la sphère privée le domaine religieux. Alors nous, si nous admettons l'athéisme, nous mettons en travers de la route beaucoup, beaucoup de gens.
Est-ce que tu peux passer le micro, Marc, Carlos Guevara, de l'autre côté de la salle?
Merci. Je voulais poser une question à Elisabeth Tamer. En fait, je voulais répondre à ton expression que tu utilisais juste à la fin de la discussion, qui disait qu'à un moment donné, s'arrête la quête des sens. Et moi, ça m'inquiète en fait cette expression, parce que j'aimerais savoir vraiment si on pense que ça s'arrête la quête des sens. S'il y a un côté un peu idéal,
tu peux
dire
parce que ça
résonne
très fort là.
Oui.
Éloignez
le micro de votre bouche un peu.
Là c'est mieux là.
Oui. Oui.
Voilà, je trouve quand même que c'est une expression un peu idéalisante de dire qu'il y a un arrêt de la quête des sens. Est-ce qu'il y a vraiment un arrêt comme ça définitif de la quête des sens? Ici on interroge, il y a un côté du sens, il y a une quête des sens. Est-ce qu'il ne serait pas plus souhaitable, en fait, de penser qu'il y a une certaine quête, disons la quête de tout sens, en fait, de l'universel, ou d'un sens qui dirait la vérité. C'est autre chose, mais est-ce qu'on peut vraiment sortir définitivement de cette quête du sens? Ça, c'est une vraie question pour moi, parce que je trouve quand même que des fois, cette formule-là nous laisse penser qu'on pourrait se situer complètement et définitivement en dehors du sens. Et du coup, voilà, ça m'inquiète cette question.
Ça dépend, Carlos. Je pense que par rapport à ce que l'analyse peut produire, je pense que ça peut s'arrêter. Et je ne pense pas que ça soit de l'idéalisme. Mais bien sûr qu'on est dans le sens, dans la vie. Par exemple, quand j'ai écrit mon texte, j'étais fort inquiète de savoir s'il avait un sens à vous transmettre. Ou s'il était. Mais je pense que...
J'en ai trouvé.
Je pense que cette idée vraiment de chercher un sens à des formations de l'inconscient, c'est ça que je pense qui s'arrête. Je pense. Bien sûr, on rêve, on fait de l'absurde. Patricia.
Où ça?
Patricia dedans.
Je ne la vois pas, Patricia.
Elle est là. Elle a changé de place.
Voilà. Donc le micro revient à Patricia et puis vous pourrez le passer à
Oui, je pense que la surprise dont tu parlais tout à l'heure, Elisabeth, c'est un peu ça qui arrête, enfin ce qu'on appelle cette quête du sens. C'est qu'en fait, si on recherchait comme sens, enfin, la démarche qu'on pouvait avoir à donner une explication à chaque chose, etc., s'arrête et ça produit en fait un sens nouveau d'une certaine manière. C'est ça la surprise, c'est de voir que finalement, tout ce qu'on essayait d'élaborer, etc., en fait c'était ailleurs et il y a un tout petit décalage qui se produit et qui produit une évidence en fait dans quelque chose qui est aussi de l'ordre du sens, mais pas le même.
Ça se joue ailleurs.
Ça joue ailleurs.
Dans l'autre. On ne s'approprie pas.
Il y a des analyses qui s'arrêtent, me semble-t-il, s'arrêtent au moins de façon différente. Il y a des analyses qui concluent, par exemple, une fois qu'ils ont, comme on dit, mis un point capital au sens, en ayant aperçu le fantasme, cerné leur fantasme, pour peu qu'il y ait eu un peu de bénéfice thérapeutique, ils s'arrêtent là-dessus. Et eux, alors, cela fait avoir les plus beaux intervenants, peut-être que les analyses peuvent aller plus loin, aller jusqu'à effectivement l'arrêt. l'arrêt de la libido interprétative. J'ai bien aimé l'expression libido interprétative. C'est ça le sens. C'est la libido interprétative. Et c'est vrai que dans l'analyse, on constate pour certains sujets la chute radicale de la libido interprétative. On peut en faire l'expérience. Tout le monde ne la fait pas. Donc c'est une autre type d'arrêt. Et les deux sont des décisions éthiques. C'est éthique, à moins qu'on idéalise un type de fin, qu'on dise c'est ça la bonne. L'éthique, ça n'est rien d'autre que ce qui indique la position du sujet. Donc, c'est deux décisions éthiques. Et donc, je me demande, ça fait vraiment que je tourne là-dessus, depuis que j'ai rencontré une personne à l'étranger, lors d'un de mes voyages, qui m'a dit assez long, tranquillement. Moi, je suis en analyse depuis 30 ans et je ne m'arrêterai pas avant ma mort, si je peux. Parce que je considère que. La personne m'a exposé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on aurait fait, nous qui sommes quand même des tenants d'analyse finie, on peut dire comme ça. Qu'est-ce qu'on dit à cette personne, quel dialogue on va engager avec elle, hein, c'est. Une décision éthique, une autre. Évidemment, on peut toujours se dire, bon, c'est un autre pays, l'analyse n'est sûrement pas là-bas ce qu'elle est ici, ça va se dire aussi. Bon. Enfin, on n'en sait rien vraiment.
Alors, ça existe ici aussi, je pense.
Oui. Donc, ce n'est pas du tout un sujet. L'analyse vient depuis très longtemps, il m'a déjà dit ça, il a déjà fait des années. Quand je vais le revoir, je vais l'aider. Mais c'est quand même aussi de l'ordre de la décision. Rester, pas du tout le sentiment que c'est trop long, que ça dure trop, que ça s'éternise. Au contraire, c'est ce qu'il faut de meilleur dans la vie, en fait. De bien, une chose. Conditions de la vie. Donc voilà, ça fait un moment que je me questionne sur ce type de position. Alors, un mot juste sur le savoir sans sujet. Est-ce que c'est athée? Oui, je dirais oui. Parce que le savoir sans sujet, c'est du savoir qui affecte seulement le corps. C'est la définition du savoir sans sujet, il affecte le corps. Il affecte bien quelque chose, mais ce n'est pas le sujet. Donc ça n'est ni le sujet supposé savoir, ni le Dieu qui parle des prophètes, ni l'un ni l'autre. Donc c'est athée, sauf Marc, ça ne va pas du tout nous mettre en difficulté dans l'époque. Pourquoi? Parce que, comme le dit Lacan, on ne s'y installe pas, on l'aperçoit, mais dès qu'on en parle et qu'on se met à parler de l'inconscient réel comme savoir sans sujet, on rentre dans l'élaboration théorique qui, comme toute théorie, réfère au sujet supposé savoir. Donc la position... C'est le moment d'athéisme, on pourrait dire. Le moment, il y a des moments d'athéisme, peut-être. Comme il y a un moment d'athée, c'est pas bien. Mais on ne s'installe pas dans cette position, c'est impossible. Ou alors il faudrait entrer dans un silence absolu. Et alors on ne sait pas si ce ne serait pas simplement de la catatonie mentale. Donc. Oui, donc je ne suis pas sûre que ce soit bien dangereux de l'apercevoir de savoir sans sujet. Du point de vue de ce qu'on continue à vivre et à parler après.
C'est
de...
Je
crois. Agnès Willem, au fond de la salle.
C'est peut-être juste pour dire que. L'arrêt de la quête de sang est articulé avec l'arrêt du transfert. C'est pas un arrêt de toute quête, de tout sens. C'est ce qui amène à la fin de l'analyse. Qui amène la fin du transfert.
mais le sujet qui a fini son analyse peut, lui, parce que les questions sont sensibles, et surtout je t'explique qu'on est là ce soir et
oui.
qu'on peut l'être, et peut aussi se poser des questions sur le sens de ce qu'il vit et de ce qu'il éprouve. Et après, c'est mon avis. Je crois que c'est l'arrêt de ce que tu as formulé après très simplement, de trouver une interprétation aux formations de l'inconscient.
Tout ça.
C'est ça. C'est pas l'arrêt de
la scène du sens.
Pas ah, toujours.
Non mais parce que ça voudrait dire, je sais pas, c'est ça que voulait dire Carlos, ça voudrait dire que il y a plus
oui.
de sens à
il faut
à
préciser.
Penser.
Oui. Ah, oui, oui.
On est d'accord.
On est d'accord.
On est d'accord. Alors d'autres questions.
Nadine.
D'autres remarques, Nadine.
Oui, une question pour Elisabeth. À un moment donné, tu as dit. L'analyste repère un changement de discours chez son analysant, et quand il repérerait ça, il s'agirait de ne pas pousser du côté de enfin, de continuer dans l'interprétation, de pousser vers ça. Alors, j'aimerais bien que tu développes un peu ça, parce que je voudrais ajouter aussi que peut-être, d'abord, qu'est-ce que c'est que repérer ce changement de discours, et puis. L'analysant, lui, il est participant aussi dans le fait que peut-être c'est aussi lui qui empêche aussi quelque chose de l'analyste d'intervenir par son changement même. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un repérage, c'est aussi quelque chose qui vient d'analysant lui-même. Enfin, voilà,
oui. La phrase n'était pas construite exactement comme ça, c'est-à-dire c'est que si l'analyste constate qu'il y a un changement, c'est basculement du savoir chez l'analysant qui pourrait correspondre à un changement de discours, c'est-à-dire voilà, qui pourrait correspondre à ça, qui, s'il repère ça, qu'il ne relance pas l'interprétation vers les sens, qu'il ne demande plus à son analysant de faire un effort de sens, qu'il laisse tomber.
Mais c'est pas, je trouve que c'est pas facile de. Je trouve que c'est quelque chose, c'est pas évident à repérer et surtout à un petit peu élaborer sur ce que tu dis là. Enfin,
oui,
moi,
oui, c'est pour ce que c'est.
Oui, enfin, par rapport à ce que tu dis, c'est peut-être
allez-y.
Aussi l'analyste. Je suppose quand même peut entendre aussi cette mise en question aussi du savoir chez l'analysant. C'est peut-être aussi à ce moment-là que tu l'as dit aussi, il se tait. C'est-à-dire que ça doit s'entendre dans les dits de l'analysant. Ça doit pouvoir s'entendre. Je pense à un analysant qui parlait de lui et son analyse de la même manière. Je me résume, il y a quelque chose de cet ordre-là où effectivement, il me semble en tout cas que l'analysant peut indiquer... indiquer ça à l'analyste et c'est en ça qu'il peut s'abstenir de l'ouvrir, de poser une question, de relancer la chaîne associative. Il me semble que l'analysant doit en faire preuve de ça aussi certainement dans l'analyse.
Si jamais ça arrive, il peut dire à son analyste c'est pas ça.
Mais
oui.
Je me pose cette question parce que par rapport à sa propre expérience, soit de l'analyse et de ce qui va surgir ou pas, effectivement, qu'est-ce qui pourrait garantir que du côté de l'analyste, enfin l'analysant, celui qui a terminé son analyse et qui est analyste, comment cette chose-là peut effectivement passer du côté de l'analyse, c'est-à-dire est-ce que c'est une garantie d'avoir traversé soi-même cette rencontre, par exemple du hors-sens, pour pouvoir le repérer.
Je pense que c'est pas que... nécessairement, mais je pense qu'il peut reconnaître.
Bon.
Alors,
je l'espère.
De l'autre côté, encore le micro.
Je me souviens d'une discussion ici. Sinon, Nadine, sinon personne ne serait allé au-delà de Freud.
Je voulais rajouter ma question de tout à l'heure, juste un une contribution. Le maire ici l'a compris par rapport à cette question, qui est le réel, crache qui dure du sens. Le réel crache du sens. Et pourquoi j'insiste sur cette question? Parce que dès qu'on dit qu'on est dans l'inconscient réel, qu'on est confronté au réel, et qu'on essaye d'essayer ce réel-là, on produit du sens.
Oui.
C'est ce qu'indique Lacan dans les récits. Donc, je ne dis pas, par là, dans mon questionnement, disons, je ne vise pas à dire qu'il n'y a pas une modification par rapport à la question du sens. Qu'il n'y a pas une modification de l'analyse par rapport à ce qu'on pourrait prétendre, disons, de trouver comme chiffre, disons, du côté du sens. Peut-être qu'en fait, on apprend dans l'analyse, effectivement, que ce n'est pas de ces côtés-là qu'on trouvera la réponse ultime. Ce qu'il est questionné, c'est cette idée qu'il y aurait un arrêt définitif, disons, d'un rapport au sens large du terme. Moi, je ne crois pas à ça. Voilà, je voulais insister sur cette question. Voilà, je pense qu'il y a une modification par rapport à la dimension du sens, mais sinon, ça me paraît un peu idéaliste de croire que du coup, on se retrouverait toujours dans le réel. Voilà.
Elisabeth va répondre ou...
Oui,
Jean-Michel.
Ce que je voulais dire, c'était très précis, c'est-à-dire c'est vraiment par rapport à la quête du sens de formation d'inconscient que ça s'arrête.
Mais oui, c'était très...
Et bien sûr, dès qu'on essaye de parler, même en analyse, ça rentre dans la parole et donc évidemment, ça se fait.
Nicolas.
Non, quoi.
Ah, mais c'était à Nicolas. Annie-Claude. Bon, si c'est comme ça, alors vous êtes tous invités à prendre un verre au fond de la salle et on continuera à discuter là-bas. Merci à nos intervenants et je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance le 5 mars dans cette même salle.
Très bonne soirée, merci à tous les deux.